vous ne rêvez pas, 2-0.00, il est bien 20h. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue, c'est un nouveau numéro de Quasar on the Air et puis c'est un numéro spécial en plus, nous aurons des tas d'invités, Charlie dans quelques secondes, Arnaud, Bernard du pôle droit des étrangers de Quasar, Isabelle pour Contact 49, Didier Lestrade sans direct au téléphone, Charlie pour Aide, Aurélien Merle pour Les Goguettes. Pourquoi ? Eh bien pour faire un peu le bilan de cette année 2021 avec ce qui nous a plu, ce qui nous a fortement déplu et puis des perspectives aussi pour l'année 2022. Nous y sommes presque, mais encore 24 heures d'attente. Donc bienvenue pour ce Quasar on the Air, l'émission de Quasar, le centre LGBTI+, c'est-à-dire lesbien, gay, bi, trans, intersexe, plus pour les autres identités d'Angers et du Maine-et-Loire. Nous avons une adresse, nous en reparlons dans quelques instants. Les bonnes habitudes, nous les conservons. Nous entrons tout de suite dans l'agenda pour le mois de janvier 2022 maintenant. Alors vous notez que samedi prochain, le 1er janvier, on fait dodo, pas de permanence, mais nous revenons pour les samedis 8, 15 et 22 janvier de 17h à 19h. Ce sera bien sûr la permanence au 15 rue de Jérusalem, 49 000 Angers, les locaux de Quasar. Notez sur l'agenda, le jeudi 6 janvier, c'est la soirée Transparent à 19h, c'est-à-dire le groupe de parole pour les parents des personnes transgenres, agenres et non-binaires. Ils peuvent venir discuter, parler de leur réalité, de la difficulté qu'ils peuvent rencontrer ou les facilités, et en tout cas les partager avec les autres parents. Samedi 15, toujours offert par la Team Trans dont nous allons parler dans quelques instants, à 15h, ce sera Transat, le groupe de parole par et pour les personnes transgenres, toujours dans les locaux de Quasar, au 15 rue de Jérusalem. Et puis enfin, vendredi 21 janvier, c'est le retour non plus des conviviales, puisque Covid oblige, plus de repas ensemble. Nous garderons nos masques, mais à 19h30, nouvel horaire, nous nous donnons rendez-vous pour un Quasar papote dont nous reparlerons d'ici là. Et puis enfin, notez pour votre agenda, les adhérents, les adhérentes et puis ceux qui ou celles qui veulent le devenir, le samedi 29 janvier prochain à 14h30, ce sera l'Assemblée Générale de Quasar. Numéro spécial bilan 2021 et perspective 2022. Premier invité, il faut se jeter à l'eau. Bonjour Charlie.
Bonsoir.
T'es pas trop impressionné, non, finalement?
Ça va.
Donc tu avais fait la version téléphone, maintenant tu fais la version directe.
C'est ça.
C'est plus facile. Alors écoute, on est heureux de t'accueillir là. On va parler particulièrement de la team trans dont tu es membre avec Alix, Amélie et Elena, mais c'est toi qui vas prendre la parole. Moi, la première question qu'on va poser à toutes les invités et les invités, c'est finalement quel est ton regard sur ce bilan année 2021?
Alors, comme toujours, du coup, hein, c'est moi qui me mouille un petit peu. Commençons déjà un peu par le point positif. Hein. Le Covid nous a demandé une assez grosse réorganisation pour pouvoir contenter toutes les demandes que nous avons eues au sein de la Team Trans. Demandes toujours en augmentation. Des demandes très très variées, hein, aussi bien des personnes très avancées dans leur transition, des personnes juste en questionnement, mais aussi beaucoup de parents prêts à accompagner leurs enfants. Le petit point noir, on va dire, de cette année, qu'on a pu constater avec toute l'équipe, c'est que bien souvent, on a des personnes qui viennent nous voir qui sont mal renseignées et qui, malheureusement, font face à toujours cette psychiatrisation qui est faite de la transidentité, avec de plus en plus de personnel médical qui leur font savoir qu'il faut cette foutue attestation psychiatrique, bon, pour avoir accès.
On le dit maintenant qu'elle n'est absolument plus exigible. Exactement. Ni nécessaire.
Voilà. Elle est absolument plus nécessaire. Donc voilà, ça a été notre point noir de cette année et qui donc va engendrer nos actions pour l'année à venir. Hein. Le mot d'ordre, j'enchaîne, hein, j'imagine.
Oui, Stéphane. Oui, là, 2022, allez, vas-y.
Donc, le mot d'ordre pour 2022, ça va être donc de se serrer les coudes, hein, de faire appel à toutes les personnes qu'on a pu recevoir, hein, de dire qu'on est là pour s'entraider, mais on est aussi là pour faire front face à cette psychiatrisation qui monte crescendo, et donc on va se serrer les coudes pour la combattre. Le deuxième mot d'ordre, ça va être aussi de répondre à une demande de plus en plus croissante de mineurs qui viennent nous consulter lors d'entretiens individuels, et donc l'idée est de mettre en place un groupe de rencontres pour partager des moments conviviaux pour les mineurs.
Alors on va dire aussi préciser que ce seront des groupes entrecoupés, c'est-à-dire avec des générations, oui, équivalentes. On ne peut pas mettre un enfant de 10 ans comme nous, puisque c'est le premier âge que l'on a parmi les demandes. On ne va pas mettre un enfant de 10 ans avec un autre de 17 ou presque 18 ans. Les problématiques et les réalités de vie ne sont pas les mêmes, donc on comprend bien qu'arrivé un moment, les choses ne sont pas toujours faciles. Un grand merci pour ta participation. On te souhaite une bonne rentrée. Alors, tu es accompagné d'Alix. Alix, dis bonjour micro, il y a le micro devant toi.
Bonjour micro.
Alors, c'est toujours un début, il faut commencer très doucement, on les appâte comme ça, et puis au bout d'un moment, on n'arrive à plus les arrêter. Bon, c'est pas dramatique, tu vois bien, ça se fait tranquille.
On y prend goût.
Bon, un grand merci à tous les deux d'être venus au micro de Quasar Anzière, et on vous souhaite une belle soirée et un bon réveillon tranquille demain hors Covid.
Bonne soirée.
Deuxième invité de ce Quasar spécial bilan et perspective, c'est Arnaud du pôle droit des étrangers. Alors Arnaud, est-ce que tu peux tout nous dire ?
Alors Stéphane, je ne vais pas faire un bilan exhaustif d'une année de bénévolat au pôle droit des étrangers LGBTI+, de Quasar. Je vais juste partager mes pensées pour celles et ceux que j'ai croisés dans mon action à l'association en 2021. Je pense avant tout à celles et ceux qui n'ont pas obtenu la protection de la France parce que ni l'OFPRA ni la CNDA n'a considéré qu'elle ou qu'il n'était pas suffisamment en danger ou que les preuves n'étaient pas assez probantes pour justifier qu'on leur délivre un titre de séjour. Ces fêtes de fin d'année sont bien tristes pour elles et eux, et l'année 2022 ne s'envisage pas dans la gaieté ni même avec espoir. C'est particulièrement à elles et eux que je pense ce soir. Mais je dois aussi parler des nombreuses nouvelles vies qui sont nées cette année pour des jeunes et des moins jeunes qui, après avoir subi des menaces, des violences exercées par la famille, la communauté du pays, l'ethnie d'appartenance ou encore les autorités locales, sont en train de prendre un nouveau départ avec des projets et des relations amoureuses enfin possibles. Et quand je pense à eux, je pense à mon pays qui les accueille au moment même où l'homophobie et le racisme s'expriment sans plus aucun complexe, se revendiquent même, et de nouveau je m'inquiète. Je pense à toi Issa, avec qui j'ai regardé pour la première fois dans sa avec les stars pour soutenir Bilal Hassani. Je pense à Momo sur son vélo à livrer des repas tous les jours, qu'il vente ou qu'il pleuve. Et je repense à ta maman qui, au début de cette année, est décédée, si jeune, 3 semaines après l'obtention de ton statut de réfugié. Elle a lâché prise quand elle a su que tu étais enfin protégé. Je pense à toi, Fodé Moussa, avec ta licence obtenue au pays et reconnue ici. Tu travailles depuis trop longtemps maintenant dans un abattoir. Tu as toujours ce sourire, cette énergie. Je ne sais pas comment tu fais. C'est normalement pas en écoutant Mylène Farmer en permanence que l'on peut tenir. Je pense à toi, Mama, dont l'objectif aujourd'hui est de pouvoir avoir au moins une petite chambre bien à toi. Après tes études et ton expérience, tu te lèves à 4h du matin pour monter sur ta trottinette et faire 14 km par jour pour aller bosser dans un abattoir, parfois les samedis et dimanches, parce qu'il faut que nous ayons nos dindes pour ces fêtes. Tu me dis que c'est trop dur, que tu n'as pas de vie sociale parce que ces horaires et la fatigue ne t'autorisent à rien d'autre pour l'instant. Eh bien, tiens bon, Mama, la France a besoin de toi. Je pense à toi, Oumar, qui bosse dans ces abattoirs depuis presque 2 ans, où il fait 4 degrés été comme hiver et qui vient seulement d'être pris au sérieux pour avoir un logement. Je pense à toi, Mamadou, qui vient d'être embauché et qui est si heureux d'avoir ce vrai job après 3 ans de procédure sans hébergement, sans aucune aide financière, avec une couverture maladie que te refusait un agent de la CPAM d'Angers. Il a fallu que l'on t'accompagne pour faire valoir tes droits les plus élémentaires. Je pense aussi au médecin qui a tardé à pousser les examens pour trouver comment soigner ce que ton séjour clandestin au Maroc t'a laissé. Merci Mamadou d'avoir assuré le tri de nos colis pour Noël. Longue vie à toi ici. Je pense à toi, Grace, et à notre conversation le jour où tu m'as appelé pour me dire que tu te sentais très seule parce qu'à faire le ménage dans les entreprises de 6h à 9h et de 17h à 20h et ne pas gagner assez pour te loger et te nourrir, tu te sentais coupée du monde. Je pense à toi, Alcéni, qui, en ce mois de décembre, sous prétexte d'un stage, a prêté main forte, gratuitement, aux salariés de Super U en préparant nos commandes pour le drive. Je pense à toi, Mohamed, je n'arrivais pas à entendre ton histoire sans pleurer, alors que toi, tu as toujours gardé le sourire. Je repense à toutes ces démarches pour demander la nationalité française. Être obligé d'écrire et menacer ton employeur pour qu'il daigne remplir le formulaire qui attestait que tu avais exercé une profession, opérateur des coupes, dans un abattoir, profession reconnue comme particulièrement exposée et indispensable à la continuité de la nation pendant la période d'urgence sanitaire. Quand tu as pu avoir ce document, qui devait favoriser l'obtention de la nationalité, selon la préfecture, il était trop tard. Le délai venait d'être raccourci. Comme si cette exposition, lors de ce premier confinement, n'avait plus de valeur. Nous nous sommes habitués à la crise sanitaire, plus besoin de remercier ton dévouement. Nous n'applaudissons plus le personnel soignant maintenant. Je me souviens que, n'arrivant pas à faire la demande de nationalité en ligne, tu as envoyé ton dossier par courrier. Tu avais pourtant pris la peine de joindre les captures d'écran des messages d'erreur du site web qui devait te permettre de faire ta demande, mais qui s'y refusait. Malgré cela, le dossier t'a été retourné avec un courrier disant qu'il fallait passer impérativement par ce fameux site web sans te dire comment. Il a fallu que Quasar fasse pression auprès de la préfecture et exige que tu puisses faire valoir tes droits pour que le soi-disant bug soit résolu. Ce 1er janvier, tu auras 27 ans, si jeune et si sage, si éprouvé par la vie et si souriant, je te souhaite de pouvoir compter parmi les Français en 2022. Tu as tant à nous apporter, la France a tout à y gagner. À toi Ismaël, où que tu sois aujourd'hui, je ne t'oublie pas. Je me souviens de ton bonheur de travailler à la blanchisserie du CHU de Nantes pendant qu'il était submergé de malades. Et comme nous avions ri parce que tu étais passé du chaud au froid quand est venu le moment de planter le muguet en plein hiver pour qu'il soit fleuri pour notre 1er mai. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui et j'en veux terriblement à mon pays de t'avoir rejeté malgré les souffrances que tu avais vécues au pays parce que tu n'avais pas su cacher que tu aimes les hommes. Enfin, je pense à la France, à l'heure où une trop grande partie de sa population pense très égoïstement que nous avons le droit de profiter des richesses du monde tout en rejetant ce qui est étranger, musulman et LGBTI. Et je me dis que sans eux, sans nous, nos hôpitaux, qui suffoquent, mourraient étouffés. Que nous n'aurions plus à bouffer parce qu'il n'y aurait plus personne pour produire la viande, plus de main-d'œuvre dans les cultures, plus de Big Mac livrés à domicile, plus de colis pour Noël, plus de ménages dans les hôtels, les entreprises et les rues de beaucoup de villes. À l'heure où l'on nous dit que l'absentéisme lié à la propagation du virus Omicron pourrait grandement perturber le bon fonctionnement de notre pays et son économie, je m'étonne qu'aucune voix s'élève pour dire que non seulement il est de son devoir à la France de protéger les opprimés, mais qu'en plus, elle n'en a que trop besoin tous les jours de l'année, avec ou sans pandémie. Bonne année 2022 à eux, à elles, à vous et vos proches, solidairement.
Radio G, www.radio-g.fr.
Un grand merci Arnaud pour ce témoignage très personnel et très poignant. Nous continuons notre balade à travers les acteurs, actrices de Quasar et pas que de Quasar. Nous avons au téléphone maintenant Bernard. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Alors Bernard, toi, tu es le référent du pôle droit des étrangers, la thématique dont parlait Arnaud à l'instant. Je te pose la même question. Finalement, quel bilan, toi, tu fais de 2021 au regard de ton action comme référent du pôle droit des étrangers de Quasar?
Alors, le bilan que je fais, c'est que tout d'abord, donc, on a accompagné, et moi personnellement, entre autres, mais pas que moi à Quasar, on a accompagné donc des femmes et des hommes qui demandaient l'asile, et en tout, cette année, 33 ont obtenu le statut de réfugié, c'est-à-dire près de 80% des personnes qui ont bouclé leur procédure dans cette année 2021. Alors, moi, je pense à ces 33 personnes qui aujourd'hui ont le statut, qui aujourd'hui ont le droit de rester en France parce que dans leur pays, ils seraient à nouveau en danger. Mais je pense aussi aux 10 personnes qui n'ont pas obtenu le statut de réfugié, avec qui on reste en lien. Pour certaines de ces personnes, on essaie de trouver des solutions de demande de carte de séjour temporaire. Et pour ces 10 personnes, bien évidemment, c'est un drame de ne pas avoir réussi à obtenir le statut et d'être normalement obligé de retourner dans leur pays avec, pour probablement la plupart d'entre eux, beaucoup de dangers. Ce que je retiens aussi de cette année 2021, dans ce qu'on a fait, là aussi, pas que moi évidemment, c'est le pôle droit des étrangers. Alors, je vais parler du pôle droit des étrangers parce que à Quasar, c'est ce que je fais, quoi. Hein. On a réussi tout de même à organiser un certain nombre de temps collectifs, malgré la pandémie qui nous embête beaucoup, hein, comme pour beaucoup d'associations. On a pu organiser des après-midi de jeux, des dimanches après-midi de jeux qui permet aux personnes qui viennent de pouvoir se rencontrer, s'amuser un peu, oublier un peu tous les soucis. Cet été, on a fait les tournois de foot en juillet et en août, comme chaque année. Il y a eu la visite du Muséum d'histoire naturelle, donc organisé par Sylvia, qui fait partie du groupe des bénévoles droits des étrangers. Il y a aussi une autre chose que je veux souligner, qu'on a pu faire cette année et qu'on n'avait pas fait l'an dernier, et moi j'ai pas participé à la préparation de cet événement, mais j'y étais par contre, et ce qui est très important, on l'a vu encore cette année, c'est la Pride. L'importance de la Pride qui a été organisée cette année au mois de septembre, et beaucoup de demandeurs d'asile y ont participé, comme les années précédentes, et pour eux c'est très très important. Et moi, à chaque fois, je me dis, bon ben, c'est quelque chose quand même de marquant pour eux. Encore aujourd'hui, moi je rencontre donc de temps en temps, j'ai des nouvelles des uns et des autres, des personnes qui dans les années passées ont obtenu leur statut avec Quasar, et ils restent un petit peu en lien avec moi notamment, et de temps en temps, il y en a qui me reparlent de la Pride à laquelle ils ont participé.
Pour la première fois, ouais.
C'est pour eux quelque chose de très important.
Et alors en une minute.
Voilà, donc.
Oui. La perspective 2022, qu'est-ce que c'est pour toi à améliorer ?
Alors, donc, la perspective de 2022, c'est évidemment de continuer à accompagner les demandeurs d'asile. Ce qu'il faudrait améliorer, c'est d'une part, être plus nombreux donc dans ce pôle droit des étrangers. Pour moi, c'est très important parce que on s'aperçoit ces tout derniers temps qu'il y a à nouveau des demandeuses et demandeurs d'asile qui frappent à la porte, un peu plus qu'auparavant. Avec la pandémie, ça avait un peu baissé. Hein. Donc, il faut qu'on s'améliore dans, je dirais, le recrutement de bénévoles pour donc assurer ces accompagnements, parce que ben on est un peu débordé, on est toujours débordé de toute façon.
C'est hein. Exact.
Pour l'année 2022, il y a quelque chose qui me semble très important. Alors là, je ne sais pas du tout comment faire, je ne sais pas, mais je me pose beaucoup de questions. Ce sont les élections donc présidentielles et les élections législatives. Et sur la question très spécifique du droit des étrangers, et en particulier droit des étrangers LGBT, on entend déjà plein de choses hein, sur les migrants, enfin bref, énormément de fausses informations, énormément de réflexions absolument inacceptables, et je me dis qu'il faudrait quand même peut-être, mais comment faire, hein, informer au maximum les personnes sur la réalité de ce qu'est, de ce que sont les migrants, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont vécu pour ceux qu'on accompagne, et ouvrir les yeux à beaucoup de Français qui aujourd'hui sont quand même très influencés par tout ce que l'on peut dire et
les idées
dans les médias.
C'est ça. En tout cas, c'est un grand programme pour 2022. Grand merci, Bernard.
Oui.
Et puis très bonne soirée. À la prochaine. Merci.
Très bonne soirée.
Au revoir. Alors, à la demande exclusive de Bernard, qui est un passionné du dance floor, voici Dan Hartman, Relight My Fire. Si Bernard vous demande de rallumer son feu, on peut craindre 2022. Dan Hartman, disco s'il en fut, et qui fait partie de tous ces artistes gays, balayés par le VIH, Klaus Nomi, également Patrick Collet et Sylvester, que nous retrouverons dans quelques instants.
De quoi Quasar Handière spécial 2021-2022, c'est Isabelle de Contact 49. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane.
Comme à chaque invité, je pose la question rituelle. Quel est ton regard, si tu te retournes, sur 2021 qui vient ou qui est presque écoulé totalement?
Oui, 2021, ça... Finalement, ça n'a pas été une année si facile que ça. On s'est dit 2020 a été très dur et donc 2021, bon, bah, on a pris quelques repères. On devrait pouvoir passer à autre chose et reprendre une vie presque normale. On a compris qu'il fallait porter des masques. On a compris qu'on ne pouvait pas se rencontrer comme on voulait. Et en fait, on mesure effectivement que 2021 n'a pas été simple. En tout cas, pour nous, à Contact, ça a été aussi une année où, en tout cas, à Contact Maine-et-Loire, où ça a été compliqué, où on s'est posé des questions sur l'engagement de nos bénévoles, du fait d'avoir des personnes plutôt âgées, plutôt à risque, et comment est-ce qu'on fait? Alors, en même temps, on a mis en place en 2021 des réunions par Zoom, des réunions groupes d'écoute et de parole par Zoom. On a mesuré en septembre, quand on a refait un groupe d'écoute et de parole en vrai, que c'est bien parce que ça existe, mais c'est pas la même chose que quand on se voit en vrai et qu'on se rencontre en vrai, malgré les masques. Donc on s'est dit qu'on allait faire les deux. Qu'on allait maintenir quand même des réunions en Zoom parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont besoin de venir par Internet parce que c'est trop compliqué encore de pousser une porte ou qui sont des personnes vulnérables et que du coup on veut toucher le plus de personnes. À malheur, comment on dit déjà, toute chose est
bonne. Oui, il y a une formule, mais je vais pas la retrouver comme toi.
Bref. Donc en tout cas, ça a permis pour nous à Contact et à Contact France aussi de créer une nouvelle façon de faire des groupes de rencontres par le Zoom et donc il y en a dans toute la France qui sont répertoriés via le site national, donc ça permet aussi à des gens de l'autre bout de la France de profiter de nos groupes de rencontres, même si c'est fait par des bénévoles d'Angers.
Ouais. Oui, si je te dis la formule qui n'est pas exacte, mais à tout malheur, solution est bonne, c'était à peu près ce que tu voulais exprimer, quoi.
c'est ça, en gros.
Voilà, hein, contre mauvaise fortune, on fait bon cœur, c'est aussi un autre sens. Voilà.
C'est ça, exactement. Ouais. Et puis voilà, on a fait avec ce qu'on était capable de faire cette année. Ce qu'on avait envie de faire parce que voilà, on s'est rendu compte qu'on avait aussi besoin de garder de l'énergie pour nous, et j'ai senti moi vraiment sur cet automne une forme de redynamisation, alors aussi au niveau national de Contact mais aussi au niveau départemental, puisqu'on accueille quatre nouveaux bénévoles, parce qu'il y en a, je vois déjà bénévoles depuis longtemps, mais non, ça fait que 4 mois. Et on peut dire que la Pride de Quasar a été positive pour ça, puisque ben voilà, l'un d'entre eux du coup a déclenché sa formation à l'écoute suite à cette Pride qu'on a fait tous ensemble, qui a été pour moi aussi un moment de bonheur. J'ai vraiment eu l'impression que, enfin, j'ai revu des personnes du milieu que j'avais pas vues depuis tellement longtemps. J'avais l'impression de pas les avoir vues pendant 5 ans. Ce qui est possible, hein, parce que c'est vrai que on s'est pas croisé beaucoup ces derniers temps. Chacun était dans son coin, et on a senti que dans cette Pride, il y avait l'envie de se retrouver, quoi, malgré la pluie.
Voilà. C'était vraiment unanime. Hein. Enfin, il y avait un besoin de se retrouver physiquement, quoi.
Oui. Ouais. Et il y avait de la joie. Il y avait de la joie.
Ouais. Très sensible, très
forte. Ouais. Et du coup, ça me fait dire, bon ben voilà, 2022. Je sais que c'est la prochaine question.
Oui, oui. J'anticipe, hein, mais... vas-y, parce que c'est exactement ce que je voulais te dire. Dans cet axe-là, 2022, finalement, qu'est-ce qu'on se souhaite? Qu'est-ce que vous souhaitez pour Contact 49?
Eh ben, on se souhaite une forme de renaissance, ou en tout cas une nouvelle dynamique. Qui va inclure ce qu'on a gagné de cette période, même si c'est une période sombre, Nos bénévoles, il y a des moments où ils sont pas disponibles, des moments où ils le sont. Il y a des moments où tout le monde n'est pas disponible à cause d'une vague, de quelque chose. Et dans ces cas-là, on ralentit à ce moment-là. Et puis, dès qu'une fenêtre s'ouvre, qu'est-ce qu'on peut faire comme moment conviviaux, comme rencontre, quel travail on peut faire avec les autres assos, comment on peut être présent sur le terrain quand on le peut. En fait, voilà, c'est vraiment finalement d'être dépendant de la météo, qui puis la météo, mais quel niveau de virus présent, et voilà, et malgré tout, il nous reste nous aussi des éléments qui, même si on est tous chacun chez soi, on a notre ligne d'écoute, on a nos réunions en Zoom, donc on sait que si on doit fermer des locaux de la mairie, on se retrouvera quand même via le Zoom. Ce sera moins bien, mais ça existera quand même. Donc voilà, c'est comment en 2022 on va pouvoir peut-être aller un peu plus loin avec les bénévoles qui sont là, proposer des choses nouvelles, relancer des moments spécifiques, aller se faire connaître via les autres assos déjà, se redire qu'on est là. Ça peut être aussi d'autres éléments.
Et si moi je te dis que finalement 2022 c'est le moment aussi entre assos, on a besoin de se retrouver aussi pour se régénérer les uns les unes.
Ah oui, 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 je suis d'accord avec toi, Stéphane. Oui, oui, on a besoin de se redonner. Je pense que 2022 va être le besoin du collectif.
C'est ça.
Le besoin du collectif qui peut être contact, mais qui peut être l'ensemble des assos LGBT, qui peut être pour nous le réseau national, qui peut être, le réseau national de contact, qui peut être la journée nationale de prévention suicide, qui a pas pu faire quoi que ce soit, si je me trompe pas, sur 2020-2021.
Oui.
C'est comment est-ce qu'on essaie de renouer des choses en tenant compte de ce qui se passe aujourd'hui. En fait, on a compris que on a compris qu'on était dépendant de cette météo et que quand il drache, on fait rien ou on fait le minimum et puis quand il fait beau, on se retrouve.
Et la météo dont tu parles, c'est bien sûr celle de la pandémie avec Omicron,
oui.
Non, qui nous arrive dessus. Merci beaucoup Isabelle. Bonnes vacances, puisque j'ai cru comprendre que, puisque tu nous rejoins par un moment enregistré, tu en profites. Alors profites-en bien. On te dit à 2022 et on t'embrasse. Au revoir.
Bisous à tous.
Radio G. 101.5 FM. Quasar on the Air, l'émission du centre LGBT plus danger qui se nomme Quasar, non bizarroïde, mais bien réel. Aujourd'hui, nous faisons cette émission bilan entre nous, entre les gens de Quasar, des différents pôles, avec Contact 49 et puis un nouvel invité au téléphone. Il s'agit de Didier Lestrade. Salut Didier.
Salut, bonsoir.
Alors Didier, on te présente en quelques mots. Tu es le penseur et créateur, entre autres, avec d'autres, d'Act Up Paris. Tu as pensé aussi et voulu créer Têtu. Tu es journaliste, tu écris sur différentes rubriques. Tu as été un spécialiste musique et puis VIH surtout. Tu as écrit des tas de bouquins que tout le monde peut retrouver, dont le dernier, dont tu peux peut-être nous parler en 2-3 secondes, et puis on y reviendra beaucoup plus longuement dans l'année 2022 pour parler de ton bouquin. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ton livre en 2-3 mots?
J'ai sorti ce livre qui s'appelle I Love Porn, qui est une étude, en fait, mon regard sur la pornographie gay, et il est lien que ça peut avoir aujourd'hui avec les phénomènes de société, de drague, les applications, les problèmes qui sont liés au porno, bien sûr, mais c'est un livre positif, c'est-à-dire que c'est un livre sur une passion que j'ai depuis, en fait, tout jeune, et sur laquelle, quand même, j'ai écrit pas mal de trucs aussi, mais... Je pensais que avec la nouvelle donne de la sexualité LGBT, la PrEP et tout ça, c'était bien de sortir un bouquin en ce moment pour donner un message assez positif sur la sexualité gay d'aujourd'hui, en tout cas.
Et ça fait partie...
Qui est un sujet qui n'est pas si souvent abordé, en fait.
Exact.
Et donc, c'est pour ça, bon, peut-être que je suis un peu encore en avance, mais je crois que ce livre restera un jalon dans la compréhension de ce phénomène que je considère culturel autant qu'érotique.
Et ton bilan 2021, perso, de ta réalité, qu'est-ce que ce serait exactement ?
Ça a été surtout ce livre, en fait, parce que ça faisait plusieurs années que j'aurais dû finir depuis au moins 2-3 ans. Et cette année, ça faisait partie des résolutions de l'année. Je voulais vraiment boucler ça. Et du coup, j'ai passé l'année à finir ce livre et puis après faire la promotion. Donc, c'est vrai que cette année, ça a été surtout ça. J'avais pas sorti de livre depuis pas mal de temps. Et c'était un peu une aiguille dans mon pied parce que je voyais que quand même je prenais du retard et à un moment il a fallu que je me ressaisisse et donc j'ai été content de pouvoir le faire.
Et le livre, et puis toi, la communauté LGBT en règle générale, ton regard, est-ce que tu t'es détaché un tout petit peu ou il y a encore des points d'accroche de ton regard qui te parlent aujourd'hui ?
Non, il y a beaucoup de sujets qui me passionnent. Et puis, bon, je suis toujours quand même sur Twitter. Donc, ça veut dire que quand même, je suis toujours en train de donner mon avis sur pas mal de trucs. Je pense que les sujets, bien sûr, qui sont les miens, bon, bien sûr, le Covid, hein, je pense qu'il y a des liens incroyables entre cette épidémie et celle du VIH. Et je crois qu'on ne nous demande pas, c'est notre avis... En tant que survivant hein, d'une épidémie précédente qui a été quand même vraiment très traumatisante, je suis toujours très 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 intéressé par le sujet de la mémoire LGBT dans le sens où je vois que les années passent et puis le projet de centre d'archives LGBT SIDA à Paris traîne toujours. Je pense que peut-être il est temps d'essayer de voir dans une autre ville ou peut-être d'aller à Saint-Denis parce que après tout ça serait très bien placé et puis la vocation pédagogique d'un tel centre serait tout aussi bien utilisée que dans le Marais à Paris. Je suis triste quand même que ce projet n'avance pas et on voit vraiment qu'il y a une mauvaise volonté de la part de la mairie de Paris et de Jean-Luc Romero parce que quand même c'est vraiment trop long pour parler de quelque chose qui disparaît en même temps qu'on parle, c'est-à-dire la mémoire, les archives, les souvenirs. C'est vraiment partie de notre culture LGBT et visiblement il n'y a aucun respect pour cette culture dans ce pays. On arrive à faire une très bonne exposition à Marseille au MUCEM sur l'activisme VIH-SIDA et puis à Paris, elles n'aiment rien, quoi. Or, on est dans une ville quand même, dans un pays très centralisé et ce symbole maintenant de l'absence d'un travail sur notre mémoire est Je pense que c'est une tâche sur le bilan de Hidalgo à la mairie de Paris, en tout cas.
On est bien d'accord. Et pour information, aujourd'hui, le collectif pour les archives a envoyé aux associations Don Quasar le rapport d'activité. Et nous, il va falloir qu'on se plonge dans cette thématique-là absolument primordiale, sachant que nous, nos archives sont quand même déposées au centre d'archives départementales, mais on peut les déplacer quand on veut. Hein, il faut évidemment être cohérent. Pour 2022, tu verrais toi quoi comme grand sujet, outre les archives dont tu viens d'évoquer la réalité ?
Je pense que 2022 va être mangé par Covid, par malheureusement des trucs négatifs, hein, comme la nouvelle présidentielle. L'effet Zemmour qui va continuer d'être toxique. Enfin, moi, je vis plutôt bien parce que je vis à la campagne et je suis protégé de ça, mais je vois que même
les acquis récents comme la PMA, on voit très bien que non seulement on l'a eu trop, très tard, et puis on voit encore aujourd'hui, je vois passer des tweets comme quoi il y a des difficultés dans l'application de la PMA en France. Mmh. Donc ça me met en colère parce que on a raté un mandat, deux mandats, et puis même on arrive à la fin de ce mandat-là, et puis on n'arrive pas à mettre sur place quelque chose qui a été discuté pendant deux ans, trois ans. Donc, oui, j'en ai marre, en fait. Hein, mon âge, j'ai 64 ans. L'année prochaine, je vais me mettre à la retraite, ce qui est quand même quelque chose de pas anodin pour une personne séropositive, parce que j'ai jamais vraiment pensé à ma retraite, mais je suis pas du tout inquiet, je suis content qu'elle vienne. Mais j'en ai marre de voir toujours des mauvaises nouvelles, quoi, au détour du chemin, et je vois pas vraiment de très bonnes nouvelles pour l'année qui vient. Hein. Je crois que les gens pensent un peu pareil. L'année dernière c'était dur, cette année ça a été difficile, et l'année prochaine commence avec des grandes inquiétudes.
D'accord, mais tu as conscience qu'il y a des gens qui t'aiment quand même et qui t'apprécient et qui veulent avec toi.
Non, mais je suis pas triste pour ma personne. Je suis triste pour
la situation, c'est ça.
Pour la situation, et je crois que forcément ça va impacter la communauté. On n'est pas à l'écart de la société, et donc forcément ces difficultés de travail, de précarité, d'incertitude politique. Déjà on en a marre, et puis. Bon, je crois qu'on a de la chance de vivre pas à Paris, hein, ou dans les grandes villes. Et je crois que quand même il y a une grande partie quand même de notre équilibre qui vient quand même de la beauté de la province, en fait. Hein.
C'est bien vrai. Bon, écoute, j'ai pensé à toi. On t'embrasse mille fois. On te remercie d'avoir été avec nous ce soir sur Quasar on the Air. Et j'ai pensé à toi. Je me suis dit, tiens, un petit Sylvester, You Make Me Feel, juste après Didier, ça va pouvoir le faire. Très bonne soirée à toi. Et puis...
Bonne année
à toi.
Bonne année quand même.
Merci. Ciao.
Merci.
Comme quoi, vous voyez, il arrive à être positif. Comme quoi, ça marche. Allez, Sylvester, histoire de faire guincher dans les chaumières. Sylvester Remix, David Morales de 2005, You Make Me Feel, la vitesse d'origine.
Time that we feel.
spécial bilan 2021 et puis aussi perspective 2022 de Quasar Anzière. C'est Charlie Bonin, le président de Aide Région Pays de la Loire. Bonjour Charlie.
Bonsoir tout le monde.
Alors, ma question est rituelle pour tous les invités, c'est quel bilan au nom de Aide fais-tu de cette année 2021 qui vient de s'écouler ?
Pour Aide, ça a été compliqué comme pour tout le monde, je pense, avec la crise sanitaire. On a forcément vu un coup d'arrêt ou en tout cas un frein dans les personnes qu'on a pu rencontrer sur les actions de prévention qu'on fait dans nos locaux, mais également chez nos partenaires, parce que, bien sûr, les personnes fréquentaient un petit peu moins les lieux festifs et étaient moins dans une démarche, en tout cas, de questionner leur santé, parce que je pense qu'il y a une saturation aussi autour des messages de santé publique qui sont fournis à travers le Covid et que les messages autour du VIH et des hépatites virales sont moins audibles dans le contexte actuel. Et donc, il y a un peu une sorte de réticence à aller vers le milieu de la santé et donc à prendre soin aussi de sa santé. Et ça, c'est un vrai problème parce que on a pu voir que depuis le début de la pandémie, il y a un vrai coup d'arrêt sur les dépistages. Les personnes se font moins dépister et donc on retrouve moins de personnes séropositives. Et donc, ça veut dire que le virus du VIH, en lien avec la Covid, circule davantage. Et malheureusement, les personnes séropositives qui s'ignorent peuvent gonfler en termes de chiffres parce qu'on ne les met pas sous traitement. Et donc, la dynamique épidémique, c'est ce qu'on craint un petit peu autour du VIH, peut reprendre. En conséquence directe ou indirecte du Covid.
Tu peux rappeler les chiffres 2020, puisqu'il y a toujours une année de décalage, annoncée au 1er décembre, justement, sur les cas de contamination, la problématique du dépistage?
Oui, alors, on est à peu près habituellement autour de 6 500 personnes qui découvrent leur séropositivité au VIH. C'est un chiffre qui est constant depuis bien longtemps. Et là, on s'est rendu compte sur les derniers chiffres de Santé publique France qu'on a diminué de près de 30% ces nouvelles découvertes, autour de 4 500 découvertes du VIH sur l'année passée. Et donc, on pourrait espérer qu'il y ait eu moins de contamination, mais c'est fort peu probable et c'est certainement un lien étroit avec la baisse des dépistages parce que pendant les confinements successifs, les couvre-feux, et bien les personnes sont moins allées vers le système de santé, se sont moins fait dépister. Et pour 2020, il y avait une baisse du nombre de dépistages de 30 à 40%, donc ce qui est énorme. Et donc, forcément, les personnes s'éloignent aussi de leur connaissance de leur propre état de santé à des moments précis.
Est-ce que tu peux rappeler, pour Aide, quels sont les publics vraiment qu'il faut en priorité dépister, viser pour que l'épidémie puisse un jour baisser très sensiblement?
Oui, alors bien sûr, on sait que tout le monde peut être confronté au VIH dans sa vie. Malheureusement, il y a des publics qui sont plus exposés parce que la dynamique de l'épidémie au VIH est plus forte dans ces populations-là. Et donc les publics les plus exposés, par ordre d'incidence, j'ai envie de dire, sont d'abord les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui représentent encore près de 35 à 40% des nouvelles contaminations au VIH chaque année. Ensuite, les personnes qui viennent de pays où l'épidémie au VIH est encore forte, les personnes migrantes ou venant d'Afrique subsaharienne prioritairement, mais pas que, et dont on sait aujourd'hui qu'une grande partie se contamine aussi après l'arrivée sur le territoire français parce que l'accès à la santé qui leur est réservé est moins important et que les personnes se contaminent aussi une fois arrivées en France. Et donc, ça reste important en termes de public prioritaire vers lesquels on agit. Les travailleurs et travailleuses du sexe qui, par leur activité, s'exposent plus au VIH que le reste de la population. Les personnes détenues aussi, les usagers et usagères de drogue par voie intraveineuse parce que l'injection reste un mode de contamination important et il faut avoir une vigilance aussi auprès de ces publics pour le VIH mais surtout pour les hépatites parce que la contamination par voie sanguine est très forte.
Sachant quand même que pour les usagères et usagers de drogue, c'est dans les lignes de contamination selon les tableaux, c'est tout de même la ligne la moins élevée en nombre de personnes, mais il n'empêche qu'il faut effectivement apporter une réponse en termes de prévention et de dépistage.
Absolument, oui.
Pour Aide, cette année 2021, si on la comparait à 2020, est-ce que ça a été plus facile à gérer parce que déjà l'expérience de 2020, ou finalement pas si simple que cela?
Alors, simple dans le sens où on a quand même, comme tu le disais, acquis une expérience sur l'année 2020, on a su s'adapter par les protocoles sanitaires sur le fait d'accueillir dans des conditions qui soient satisfaisantes et pour les militants de aide et pour les usagers de l'association et les personnes qu'on rencontre, des protocoles sanitaires qui soient rassurants pour tout le monde. Et surtout, on a su adapter nos actions pour répondre. On a fait de l'envoi postal d'autotests au VIH pour que les personnes puissent malgré tout avoir accès au dépistage sans avoir à bouger de chez elles. Ça reste un outil, un levier important dans ce qu'on peut proposer. Des accompagnements qui peuvent être virtuels. Enfin, on a su s'adapter, proposer des nouvelles formes d'accompagnement et de réduction des risques en lien avec la crise sanitaire. Mais je dirais le frein qui reste encore important sur cette année 2021, ça reste la mobilisation des militants et des militantes, parce que on a tendance sur les périodes de crise sanitaire comme celle qu'on traverse à se recentrer sur l'essentiel et sur notre entourage un peu proche et l'activité professionnelle qui prend de la place, et on a peut-être aussi moins de temps à consacrer à des associations, et donc Aide en est directement impacté. Il n'y a pas qu'en Pays de la Loire, pour le coup, c'est assez courant sur le réseau national, et c'est quelque chose qu'on constate un peu partout.
Et maintenant, si on se tourne vers 2022, quels sont tes espoirs, tes attentes?
Eh bien, continuer à rencontrer les personnes. Alors, j'espère que l'activité pourra reprendre de façon plus importante. Ça, on y travaille. On travaille à remettre en place, pour ce qui concerne Angers, des partenariats avec des structures qui, par le temps, par manque de mobilisation, avaient été un peu écartées de nos activités. On essaye en tout cas d'être un peu plus présent et de couvrir davantage de structures pour rencontrer le plus de personnes possible et être dans une action la plus efficace et la plus pertinente, aller chercher les personnes où elles se trouvent, et puis réussir à mobiliser ou à remobiliser les personnes pour agir et pour rencontrer les personnes. Parce que l'activité, bien sûr, dépend très étroitement de la capacité à pouvoir être nombreux et à pouvoir faire vivre l'association. Et ça, pour le coup, j'ai un espoir autour de ça. Et j'espère aussi que le message ce soir sera un levier pour inciter les personnes à nous rejoindre si ils ou elles le souhaitent.
Et la réalité, on rappelle que même en période d'Omicron, le dépistage, les trodes, c'est-à-dire la piqûre avec une goutte de sang, puis le résultat dans les 15-20 minutes, vraiment, ça n'empêche pas et ça rend les choses possibles avec le masque, les gestes barrières, les protections habituelles. On est bien d'accord?
Oui, absolument, c'est ce que je te disais. On a mis en place tout plein de protocoles qui permettent de prendre soin de sa santé. On est dans une asso de santé, donc ça nous est prioritaire en tout cas d'assurer la sécurité de tout le monde sur nos actions. Et on aère nos pièces, on fournit du matériel de réduction des risques si les personnes n'en ont pas, donc du masque, du gel. Enfin, voilà, on met vraiment tout en place pour sécuriser au maximum la venue des personnes vers nous.
Et en termes d'épidémiologie, le fait que le virus circule, ça n'empêche pas la possibilité donc d'aller se faire dépister en aucune manière, vraiment.
Absolument, non, on continue à maintenir. Alors pour info, on a toujours nos permanences d'accueil dans nos locaux, hein, tous les lundis de 16h à 20h si les personnes le souhaitent. Et après, on peut prendre des rendez-vous sur des créneaux anticipés en nous contactant sur des créneaux individualisés selon les besoins des personnes, pour essayer bien sûr d'être au plus près des capacités, des possibilités des personnes.
Un grand merci pour ce temps dans ce Quasar on the Air, et puis on te dit à très vite en 2022 pour d'autres actions de dépistage comme en 2021, et puis peut-être aussi faire du collectif LGBT plus fortement présent pour répondre à ces besoins qui sont les nôtres.
Avec un grand plaisir.
La dernière ligne droite de cette émission spéciale bilan et perspective année 2021-2022, nouvelle et dernière invitée au téléphone. Alors accrochez-vous, on remonte très loin dans le temps, une présidence des années, il va nous le dire. Bonjour Aurélien.
Oui, bonjour.
C'est
bonjour,
Aurélien Maire, l'ancien président de Quasar, mais aujourd'hui qui a une actualité toute différente, puisqu'il est membre des Goguettes. Alors les Goguettes, c'est quoi exactement, Aurélien?
Les Goguettes en trio, mais à quatre, hein, pour le nom complet.
Voilà.
Alors oui, d'un seul coup, on va avoir une parole beaucoup moins militante, hein, mais c'est pour clair. La fin de l'émission, se détendre un peu, j'imagine.
C'est ça. T'as voilà, tout compris.
Parce que j'ai écouté un peu. Et ben, c'est un groupe de chanteurs, musiciens, interprètes, auteurs de parodies de chansons, qui est la définition d'ailleurs de Goguette, enfin une des définitions de Goguette. Et voilà, et c'est un groupe qui s'est constitué en 2013 et puis qui a connu pas mal de succès via YouTube, enfin via en tout cas les réseaux sociaux d'une façon générale en 2020, pendant le premier confinement.
Oui.
Ça tournait déjà bien avant le spectacle, mais là ça a été un peu l'hystérie pendant quelques mois et on a gagné beaucoup de public et voilà.
Et beaucoup de sous. On est content pour vous.
Énormément d'argent, si tu savais. Bon. On pouvait pas jouer, donc si tu veux.
C'est ça, c'est compliqué.
Ouais,
voilà. Mais en notoriété, c'est vrai que ça a été
oui.
Très, très positif. Voilà. Alors, voilà. Les Goguettes, il y a qui dedans? Il y a Aurélien Merle, et puis.
Il y a une pianiste formidable, qui d'ailleurs a grandi en Anjou aussi, que je connaissais avant, qui s'appelle Clémence Monnier. Qui écrit et chante aussi d'ailleurs, hein. Et puis deux autres auteurs-chanteurs, Valentin Vander et Stan.
Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, votre inspiration c'est quoi? Chansonnier, on dirait ça comme ça?
C'est tout à fait la tradition des chansonniers, effectivement, c'est typiquement français, hein, et sauf que moi quand j'étais gamin, enfin c'était ringard complètement, et puis je pense que, mais on l'a pas fait exprès, enfin on est revenu à un moment où il y avait un besoin, je pense, d'abord de paroles humoristiques, politiques, qui se faisaient, parce qu'il y a plein de choses qui avaient pris la place des chansonniers, comme les Guignols ou les Inconnus, et qui ont disparu, quoi. Donc, c'est revenu un petit peu à la mode. D'ailleurs, Frédéric Fromet aussi en fait sur France Inter chaque semaine.
Exact. Bon, des fois, il se prend des tonnes de lettres, mais c'est autre chose.
Ça, c'est son style. Hein. Ouais. Bon, après, c'est pas compliqué aujourd'hui de recevoir du courrier. Hein.
Non, mais vous n'en recevez pas du courrier de protestation, si?
Du courrier, non, mais sur les réseaux sociaux, on se fait démolir quand même régulièrement. Mais ça, c'est la
règle. En fait, c'est la rançon
règle,
du succès.
C'est la rançon, exactement.
Et tous les partis en prennent pour leur grade, hein, on est bien d'accord.
Oui, on essaye. Après, c'est toujours plus facile de taper sur les partis au pouvoir. Voilà. C'est bon.
Et vous êtes produit récemment à Angers, et puis vous avez toute une tournée.
Oui, alors c'était un spectacle à Angers, mais qui était privé. Enfin, c'était en fait la mairie de Paris qui nous a invités.
Non, d'Angers.
Qu'est-ce que j'ai dit? La mairie d'Angers. Oui, on a entendu parler de la mairie de Paris avec Didier Lestrade. La mairie d'Angers qui nous avait demandé de venir là pour faire deux spectacles, mais réservés au
personnel.
Ouais, au personnel. Voilà. Ah, et sinon, on est en tournée, oui, alors avec les incertitudes qui reviennent, évidemment.
Oui.
On avait bien repris la tournée depuis début septembre, et on a des dates jusqu'en juillet. Mais là, ça y est, on a une date déjà annulée en janvier, une autre en juin. Bon, on attend de voir, on croise les doigts.
Et votre perspective 2022, à part ces annulations-là, il n'y a pas une date un peu historique aussi sur l'agenda?
En plus, on peut annoncer qu'elle est complète, c'est l'Olympia.
Ah oui,
c'est complet. Et ce qui fait qu'on va pouvoir annoncer bientôt le 2023. Enfin, parce qu'on va fêter nos 10 ans dignement aussi, donc on va sortir une petite surprise du chapeau bientôt.
Voilà. Bon.
Donc normalement, c'est une année qui doit se poursuivre dans le rythme de la fin d'année, c'est-à-dire de retrouvailles ou de rencontres enfin avec le public qui nous a découvert pendant le confinement et qui est très très demandeur à fond, très amoureux, enfin vraiment ils sont à fond et c'est vraiment on reçoit beaucoup de merci, quoi. Merci, vous nous avez fait du bien pendant le confinement et ça c'est vraiment génial à entendre.
Voilà. Bon, eh bien écoutez, voilà une belle perspective, les Goguettes. On vous souhaite tout le bonheur possible de partir en Goguette, justement. Et puis, redis-moi une chose, l'année de la présidence d'un certain Aurélien Merle à Quasar?
En fait, j'aurais dû potasser avant parce que j'en suis pas sûr, mais je pense que ça fait 20 ans. Hein,
oui,
au moins. 2001.
Mais tu es un grand garçon maintenant.
Ben oui, exactement.
Yeah. On t'embrasse, un grand merci de nous avoir consacré ce temps-là. Merci beaucoup et bonne vie et longue vie aux Goguettes. Ciao.
Belle année à toi. Ciao.
Allez, très vite, avant de refermer ce numéro de Quasar on the Air, rappelez-vous, pas de permanence samedi prochain, le 1er à 17h, mais elles reviennent les 8, 15 et 22 janvier, 17h, 19h. Jeudi 6 janvier, Transparent, le groupe de parole des parents d'enfants trans ou mineurs ou majeurs. C'est à 19h à Quasar, samedi 15. C'est Transat, le groupe de parole par et pour les mineurs, les majeurs ou mineurs transgenres aussi, à 15h. Vendredi 21 janvier à 19h, nouveau rendez-vous Quasar Papote. Et puis l'Assemblée Générale de Quasar, c'est le samedi 29 janvier à 14h30. Allez, on s'embrasse partout, partout. C'est la dernière de l'année. On se dit à très, très vite maintenant, parce qu'on a besoin de se retrouver, évidemment. On va passer le dernier rendez-vous de l'année le plus prudemment possible, loin de la Covid. Mais en tout cas, on espère vous retrouver en super grande forme pour 2022. On vous embrasse et on vous dit à dans 15 jours. Ciao, ciao.
Radio G. 101.5 FM. Yes.